Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 255 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur le pouvoir absolu de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم.
Dieu, point de Dieu que lui, le vivant, l'absolu. Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. À lui, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui que par sa permission? Il sait ce qu'ils ont devant eux et ce qu'ils ont derrière eux. Et de sa science, il ne cerne rien que ce qu'il veut. Son repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est lui, le Très-Haut, le Très-Grand.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Au sommaire de ce journal, le bilan des récentes inondations meurtrières en Iran est passé à 61, tandis que 32 autres personnes sont toujours portées disparues. Les opérations de secours se poursuivent. PGAC, l'accord nucléaire de 2015, l'Iran veut parvenir à un bon accord, solide et durable. Et puis le regard vers l'Est devrait être une approche stratégique, insiste le porte-parole de la diplomatie iranienne. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le bilan des récentes inondations en Iran est passé à 61, tandis que 32 autres personnes sont toujours portées disparues. 21 des 31 provinces iraniennes ont été touchées par des inondations au cours de la semaine dernière. La capitale Téhéran est l'une des régions les plus durement touchées. Les opérations de secours sont toujours en cours. Les inondations ont également causé des dégâts matériels, bloquant les routes, coupant les réseaux d'eau et d'électricité dans certaines zones. Des avertissements d'inondation sont toujours en place dans de nombreuses régions, les autorités exhortant les gens à rester à l'écart des berges et des vallées. Le guide suprême de la révolution islamique a également publié un message présentant ses condoléances aux victimes. L'ayatollah Sayyed Ali Khamenei a appelé les responsables gouvernementaux à prendre les mesures nécessaires pour réparer les dégâts. Sachez également que suite aux inondations en Iran qui ont fait d'un certain nombre de victimes, l'émir et le vice-émir et le premier ministre du Qatar ont exprimé leurs condoléances au président iranien Ibrahim Raisi dans des messages séparés. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans un message adressé au président iranien, a exprimé ses condoléances pour le décès d'un certain nombre de citoyens iraniens en raison des inondations meurtrières et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le Cheikh Abdallah Ben Hamad Al Thani, vice-émir du Qatar, et le Cheikh Khalifa Ben Abdelaziz Al Thani, premier ministre de ce pays, ont exprimé pour leur part, dans des messages séparés, leurs condoléances à l'adresse du président iranien concernant les récentes inondations survenues dans certaines villes de l'Iran et a souhaité la guérison aux blessés. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran était déterminé à parvenir à un bon accord solide et durable dans les pourparlers sur la relance de l'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom du PGAC. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec son homologue qatari, le Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Téhéran affirme que la relance de l'accord nucléaire de 2015 dépend de la volonté politique de Washington de garantir que l'Iran puisse récolter tous ces avantages auxquels il a droit en vertu de l'accord. En effet, le plan global d'action conjointe, PGAC, ou l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015 était le point de départ le plus logique pour dénouer la tension dans les relations internationales et régionales de l'Iran et créer un cadre pour la désescalade. Tous les États membres du Conseil de coopération, y compris l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, montrent désormais leurs intérêts à relancer l'accord malgré quelques doutes initiaux. Avant d'entamer sa visite au Moyen-Orient, Joe Biden lui-même a reconnu, selon Washington Post, les avantages d'un Moyen-Orient plus sûr et interconnecté, soulignant l'importance des voies navigables de la région qui jouent un rôle fondamental dans le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement, mais aussi ses ressources énergétiques vitales pour compenser les effets de la guerre en Ukraine. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les équilibres stratégiques dans la région et dans le monde changeaient d'ouest en est, avant d'ajouter « Aujourd'hui, le regard des nations de la région, y compris le monde arabe, n'est plus tourné vers l'Occident comme par le passé. » Lors d'une réunion avec le chef de l'association d'amitié sino-iranienne, Alaeddine Broujerdi, et les membres du conseil d'administration de cette association, Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré « Aujourd'hui, la plupart des nations de la région ont une vision négative à propos des États-Unis. » Se référant à l'accent mis par le guide suprême de la révolution islamique sur le fait de regarder vers l'Est, Kanani a déclaré « Regarder vers l'Est en Iran et renforcer les relations avec les pays de l'Est, y compris la Chine, devrait être une approche stratégique et pas seulement une approche tactique contre l'Ouest. » Se référant aux capacités de l'association d'amitié sino-iranienne, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a poursuivi « L'une des questions importantes que cette institution non gouvernementale peut faire est d'aider à corriger les regards à l'intérieur du pays vers l'Est et à introduire correctement les nombreuses capacités économiques et culturelles avec l'Est, y compris la Chine. » Le ministère iranien des Affaires étrangères a félicité le gouvernement et le peuple suisse à l'occasion de la fête nationale suisse célébrée le 1er août. La fête nationale suisse se réfère au pacte fédéral daté de 1291, acte fondateur de la confédération conclue par les représentants des trois cantons primitifs suisses. Le pacte fédéral historique est associé dans l'imaginaire helvétique au mythique serment du Krutli. La Suisse et l'Iran entretiennent de bonnes relations diplomatiques depuis le 19e siècle. La Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran depuis 1980 et ceux de l'Iran en Égypte depuis 1979. Les experts horlogers suisses se sont installés en Perse dès le XVIIe siècle. Les relations économiques entre l'Iran et la Suisse se sont renforcées au XXIe siècle. En 1873, la Suisse et l'Iran ont signé un traité d'amitié et de commerce. La Suisse a ouvert un consulat à Téhéran en 1919 et y maintient une ambassade depuis 1936. L'Iran progressera rapidement dans le domaine spatial. Dans le domaine de l'espace, des réalisations précieuses ont été enregistrées grâce aux actions favorables qui ont été entreprises et le travail dans ce domaine est en bonne voie, de sorte que nous progressons rapidement dans ce domaine et promettons un avenir brillant et plein d'espoir, se félicite ce samedi le général Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le général de brigade de grade, Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du CGRI, a souligné que l'Iran est aujourd'hui plus fort que jamais dans le domaine de la dissuasion après 4 décennies. Aujourd'hui, grâce à Dieu, avec un travail et des efforts continus dans le domaine militaire et dans divers domaines, y compris les missiles, les drones, etc., nous avons des capacités et des possibilités spéciales qui ont brisé les calculs illusoires des ennemis. Le général Hajizadeh, se référant à la stratégie de création d'un pouvoir de défense dissuasif par les forces armées de la République islamique d'Iran, a poursuivi « Le processus a été suivi par la gestion et l'adoption de stratégies et de méthodes appropriées dans le domaine militaire. Et aujourd'hui, même les ennemis reconnaissent notre pouvoir dissuasif. Et les grandes puissances et les propriétaires de technologies du monde admirent les évolutions liées à l'industrie militaire iranienne, dont la technologie est à la pointe. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'armée iranienne possède la flotte d'hélicoptères la plus puissante du Moyen-Orient. Le commandant de Havan-Nirouz, ou l'aviation de l'armée de terre de la République islamique d'Iran, soulignant que le slogan « Nous pouvons » est devenu une tâche opérationnelle dans la République islamique, a déclaré « Aujourd'hui, après 44 ans de sanctions, l'armée de terre iranienne est également connue pour sa flotte d'hélicoptères la plus puissante du Moyen-Orient. Elle dispose d'une puissance de combat, d'une préparation et d'une puissance de dissuasion élevée. » Samedi, lors de la cérémonie de dévoilement de deux hélicoptères et de plusieurs autres modèles qui s'est tenue à la première base aérienne de combat de Kermanshah, à l'ouest de l'Iran, le général pilote brigadier Youssef Orbani a ajouté « Aujourd'hui, après 44 ans, nos hélicoptères peuvent être réparés et la fabrication de pièces et la mise à jour des systèmes de vision nocturne peuvent également être effectuées sur des hélicoptères, une technologie qui ne sont disponibles que dans un nombre limité de pays. » Soulignant que la puissance d'armement de Havan-Nirouz est conçu sur la portée, la localisation et le renseignement, il a précisé « Aujourd'hui, nos hélicoptères disposent des armes les plus équipées et les plus modernes au monde, et cette puissance et cette capacité de l'aviation de l'armée de terre de la République islamique d'Iran se manifestent bien dans les exercices et les manœuvres. » L'invincibilité de Havan-Nirouz iranien dans toutes les opérations menées durant la défense sacrée, à savoir la guerre imposée de l'Irak de Saddam à l'Iran, et surtout la victoire dans l'opération de Mersad, en est la preuve. Le commandant de l'aviation de l'armée de terre iranienne a mentionné l'autorité de la République islamique dans la région, voire le monde, pour dire que tous les analystes et chercheurs militaires en parlent. Aujourd'hui, sur le plan des évolutions internationales, le rôle des forces armées de la République islamique dans la doctrine militaire des autres pays est précieux et recherché. De sorte que lors des récentes visites des présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan, ils ont été témoins des directives bénéfiques et utiles du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, le commandant en chef des armées de la République islamique d'Iran, qui a mis en garde les deux dirigeants contre la mort des innocents avant d'appeler à neutraliser l'OTAN en ce qui concerne sa mission destructrice dans la région, a-t-il encore précisé. Havan-Nirouz, ou l'aviation de l'armée de terre de la République islamique d'Iran, est l'aviation sous le contrôle de l'armée de terre d'Iran. C'est le service d'aviation légère le plus professionnel, avec une flotte d'hélicoptères nombreuses dans le Moyen-Orient, avec plus de 300 hélicoptères pour l'attaque et le transport. Il est aussi le plus expérimenté dans la région, ayant participé à la guerre imposée Iran-Irak, dans laquelle Havan-Nirouz a joué un rôle considérable, dans la destruction et la défaite des armées de l'Irak de Saddam envahissante. son rôle principal est l'appui aérien rapproché des forces terrestres dans l'opération militaire. En plus, sa participation dans des missions de gestion des urgences telles que la recherche, le sauvetage, l'évacuation sanitaire et la lutte contre les incendies de forêt sont les missions de cette branche militaire. Les membres de Habonirus ont les mêmes insignes de grade et les mêmes titres que le reste de l'armée.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la bataille gazière en Méditerranée. En effet, l'Iran et la Russie ont donné le feu vert au Hezbollah d'attaquer, s'ils le souhaitent, des sites offshore gaziers en Méditerranée d'Israël. L'exploitation illégale de ces sites, Karish, donc, a réduit donc la part russe du gaz vers l'Europe, ce qui a vraiment inquiété la Russie, car c'était un pilier énorme de pression contre l'Europe à la suite de la crise en Ukraine. Alors, la panique est à son comble en Israël et les responsables de ce pays ne savent plus où donner la tête. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Depuis que Nasrallah a tracé à l'antenne d'Al-Mayadin les contours de ce qui sera la première méga bataille navale de la résistance contre l'axe US-Israël, bataille qui aura pour le théâtre rien moins que la Méditerranée orientale ou la Palestine occupée, l'Égypte, Chypre, pompant le gaz, servent les bénéfices de l'Empire contre deux États résistants privés, eux, de ce même gaz, puisque l'Empire a pu les en empêcher jusqu'ici. Les sionistes se trouvent dans tous leurs États. Pourquoi ? Parce que les révélations de Nasrallah au cours de ce très particulier entretien ont prouvé que, militairement parlant, ce pompage parfaitement inégalitaire des ressources offshore méditerranéennes, qui n'a rien moins que d'un pillage, risque de cesser à tout instant. Si le Hezbollah en décidait ainsi et que, par conséquent, la richesse gazière pourrait changer du jour au lendemain de camp, Israël pouvant devenir le parent pauvre de cette manne gazière contre un Liban qui, une fois les entreprises russes et iraniennes arrivées à Karish et à Cana, le remplacerait largement sur le marché du gaz, et ce, d'autant plus que quelques 57 trillions de pieds de cubes de gaz ont déjà été découverts en Égypte, en Palestine occupée et à Chypre, et que le gros du gaz méditerranéen se trouve désormais en Syrie et au Liban. Tous deux inexploités que les 9 sites offshore israéliens, à savoir Tamar, Leviathan, Nova, Marine, Dalit, Delphine, Samson, Etanine et Karish n'arriveraient, d'excitent les études européennes, même pas aux chevilles des 10 sites offshore libanais, car le plus gros des gisements israéliens, ou Tamir, doté d'une réserve de 8,4 trillions de pieds de cube, en serait à des milliers d'années de lumière du plus petit site offshore libanais. Ce cauchemar Israël est-il capable de le repousser maintenant que le Hezbollah a même fixé une échéance début septembre pour une escalade qu'il dit, pour la toute première fois depuis qu'il existe, vouloir la déclencher en premier? Mardi, l'armée israélienne a relevé le niveau d'alerte navale. La presse sioniste a même parlé d'un forum multi-armes que l'entité a formé à la hâte et qui comprend le ministère de la Sécurité, la marine, le département des opérations militaires, l'armée de l'air israélienne, le commandement nord de l'armée israélienne, ainsi que la communauté du renseignement, et tout ceci dans le but de se préparer à la possibilité que le Hezbollah tente de mener une opération militaire ou des provocations à remettre en cause ou de compromettre les opérations d'exploitation et de pompage.
Alors voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat et nous parlons bien sûr de cette bataille gazière en Méditerranée. Et comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir deux chers invités en commençant par Mme Ghada Hobolla, géopolitologue depuis Beyrouth. Bonjour.
Oui, bonjour à vous et à votre invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de Vrai TV. Merci pour m'avoir invité sur le plateau.
Tout le plaisir est pour nous et merci d'être avec nous. Un grand bonjour à M. Imadeddin Hamrouni, expert des questions politiques depuis Paris. M. Hamrouni, bonjour.
Bonjour à vous et à votre cher invité, Olivier, et à tous les spectateurs de votre chaîne. Merci.
Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation. Nous entrons dans le vif du sujet. Je m'adresse à Mme Ghada Hobolla, géopolitologue depuis Beyrouth. Alors, la panique est à son comble, n'est-ce pas? Et les responsables israéliens ne savent plus où donner la tête. Après ce feu vert de la Russie et de l'Iran pour attaquer directement par missile des sites offshore, Karish, en Méditerranée, des sites donc illégalement exploités, n'est-ce pas?
Bah, disons qu'à chaque fois que le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, se prononce dans un discours et profère des menaces, le parcours de ce chef de la résistance islamique, qui est la branche armée du Hezbollah, est un parcours qui est crédible. C'est-à-dire que tous les Israéliens, lors d'un sondage qui a été fait au lendemain de la fin de la guerre des 33 jours en 2006, selon ce sondage, ils ont carrément affirmé qu'ils avaient confiance plus en Saïd Hassan Nasrallah qu'en leurs propres dirigeants. Donc, quand Saïd Hassan Nasrallah, qui est également stratège, militaire, profère des menaces, c'est-à-dire qu'il a les moyens. Ce ne sont pas des menaces qui sont uniquement exprimées sur le papier. Et donc, quand il dit qu'il possède des drones, et là je fais référence à son dernier entretien ou interview exclusif accordé à la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen, dans laquelle il a commencé dans un premier axe à évaluer l'évolution de la stratégie de dissuasion de la résistance islamique et qui aujourd'hui peut se résumer en trois points. La résistance islamique dispose d'une force aérienne à travers ses drones, avec deux types de drones, ceux qui sont indétectables et ceux qui sont détectables. Également, il dispose déjà d'une force terrestre qui a fait ses preuves lors de la guerre des 33 jours ou la guerre de 2006. Et enfin, il dispose aussi d'une force marine puisqu'il a des missiles sol-mer qui ont également fait leurs preuves au cours de cette guerre. Donc, certainement, quand il menace et qu'il dit que la résistance islamique, elle peut atteindre tous les champs gaziers et pétroliers de l'ennemi israélien et qu'il a rappelé ce qu'il avait imposé durant la guerre de 2006 après Haïfa, et là aussi il a dit après Karish. Donc ils savent très bien, l'establishment militaire israélien sait très bien que Saïd Hassan Nasrallah est capable non seulement de viser ces sites, mais aussi il peut viser tous les navires qui transportent du pétrole et du gaz de l'ennemi israélien.
En effet. Voilà. Oui. Merci pour cette introduction. Restez avec nous. Nous avons naturellement d'autres questions à vous poser. Je vais m'adresser à M. Imadeddin Hamrouni, qui est avec nous depuis Paris. Alors, c'est vrai que, comme a dit Mme Hobolla, le Hezbollah a marqué des avancées militaires considérables, que ce soit terrestre ou aérien. Mais Est-ce qu'il va mettre à jour ces avancées, vu donc le feu vert de l'Iran et de la Russie à l'égard des sites illégalement exploités par Israël?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous savez, le secrétaire général Hezbollah, il a parlé 180 minutes. Donc c'est un entretien très important qui s'adresse d'abord au peuple de la résistance dans la région, mais surtout il s'adresse à l'armée israélienne et à la Maison Blanche. Donc c'est un entretien fortement important pour la région et pour le monde, parce qu'on ne parle plus aujourd'hui du Liban et de la Palestine occupée, on parle d'un gros souci mondial, c'est-à-dire l'énergie, le gaz, le pétrole. Et donc le secrétaire général de Hezbollah choisit ce moment important pour adresser trois messages. Le premier message, c'est que la résistance, elle travaille pour l'intérêt du peuple libanais, pour tout le peuple libanais. Deuxièmement, la résistance, elle a les moyens techniques, technologiques, pour mettre en place sa menace. Troisièmement, et ça c'est nouveau, c'est que la résistance aujourd'hui a les moyens d'être le premier qui agit. Donc c'est la première fois de l'histoire où l'entité sioniste, où l'armée sioniste et même l'armée américaine, elle est menacée par la résistance libanaise. Ça c'est un point très important. Et ce n'est pas simplement un feu vert russe ou iranien. Non, c'est une décision libanaise. Et ça aussi, il faut le noter, car la décision indépendante de la résistance forme sa force. La force de la résistance, c'est d'abord son indépendance, deuxièmement son courage et troisièmement son organisation. Comme il a bien détaillé, 180 minutes c'est beaucoup, mais il a bien détaillé comment la résistance travaille, comment la branche militaire possède les moyens technologiques hautement performants pour atteindre ses objectifs au-delà de Karij. C'est-à-dire aujourd'hui, il met, si vous voulez, un plan d'action qui dépasse Karij. Il dit, moi, je peux frapper tous les gisements gaziers de l'entité sioniste. Ça, c'est très important. Et donc, les donnes vont être changées. C'est-à-dire, pas simplement par rapport à la Méditerranée, mais aussi par rapport même à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les décisions de la résistance libanaise influencent la guerre en Ukraine. Donc, on est vraiment dans un plan international, mondial, d'opposition entre l'empire américano-sioniste et les pays et les mouvements de la résistance dans le monde. Et le point important aujourd'hui, c'est Karij, c'est-à-dire la Méditerranée, c'est-à-dire quelle sera la décision de l'entité sioniste politiquement pour que le Hezbollah ne déclenche pas sa menace à partir du 15 septembre.
Absolument. Gada Obala, c'est vrai qu'il faut noter tout de même que la Russie donc, joue un rôle important dans ces menaces à l'encontre d'Israël, car justement ces sites gaziers Karij qui sont illégalement exploités par Israël menace justement la Russie pour réduire sa part donc de la Russie dans l'exportation du gaz vers l'Europe. Que pensez-vous?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où il faut pas oublier que dans l'affaire de l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers du Liban, vous avez un consortium de trois compagnies russes, dont un consortium de trois compagnies européennes, l'Italie, la Russie et Total, la France. Donc déjà, la Russie avait réussi à renforcer sa présence au Liban à travers justement la porte pétrolière. Et le Liban, même s'il y a la Russie ou s'il y a l'Iran ou quoi que ce soit, le Liban en tant que tel, menace l'entité sioniste s'il dispose ou s'il réussit à exploiter son pétrole et son gaz, parce que là aussi, il aura la même chance, sinon plus, de pouvoir vendre ce pétrole et ce gaz aux Européens. Ok, donc ça c'est donc je vois pas vraiment où est-ce que cela constitue une menace. Au contraire, la Russie pourrait très bien profiter de sa présence au Moyen-Orient à travers la porte syrienne, mais aussi à travers justement ce consortium. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est là où le Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a donné une forme de boots à la Russie en disant que l'équation qu'il a imposée concernant après Karish, il n'a plus lié la question de l'exploitation et de l'exploration des champs gaziers et libanais du Liban avec la démarcation des frontières maritimes. Ce n'est plus une question qui est liée aux frontières maritimes, il a clairement dit. C'est une question qui est liée au lever du veto américain et israélien de toute compagnie qui souhaite investir au Liban concernant l'exploration et l'exploitation du pétrole. Et donc, cela inclut bien entendu les compagnies russes ou les compagnies iraniennes, premièrement. Deuxièmement, là, je voudrais remercier votre invité concernant une chose. Quand vous lui avez posé la question concernant le feu vert russe et iranien, à plusieurs reprises, le secrétaire général du Hezbollah a mentionné qu'il n'y a pas de feu vert de la part de l'Iran. Nous agissons selon une stratégie indépendante par rapport à nos alliés, entre autres l'Iran. Seulement, la différence, c'est qu'il a dit, et c'est là où je peux dire, entre guillemets, de feu vert, ou plutôt d'autorisation légitime. Il faut avoir une certaine lecture de la littérature même du Hezbollah. Finalement, c'est un parti doctrinal. Et donc, quand on parle de parti doctrinal, et quand il profère des menaces claires et précises concernant une probabilité de guerre, il doit assumer la responsabilité des victimes qui peuvent tomber en martyr. Cela, il ne peut pas l'assumer tout seul. Et là, il a besoin, bien entendu, d'une autorisation légale, entre guillemets, de la part du guide suprême de la révolution islamique, à savoir l'ayatollah Ali Khamenei. C'est seulement là qu'il y a, si j'ose dire, un feu vert. Autrement dit, non.
Monsieur Abrouni, voilà. Est-ce que vous voulez bien réagir face à ces propos, je vous prie?
Oui, ce feu vert, il est légal, il est spirituel, il n'est pas iranien. Je veux dire par là, il faut aller au-delà dans la conception de la résistance libanaise. Dans le discours, revenons au discours, à l'entretien, il est très intéressant l'entretien. L'entretien montre que le Hezbollah défend l'intérêt libanais. Il défend l'intérêt national libanais. C'est-à-dire presque, le secrétaire général, il a parlé au nom de tous les Libanais, même ceux qui sont contre le Hezbollah. Car à la fin, c'est-à-dire la manne pétrolière et gazière va revenir au peuple libanais. Donc,
oui, juste une question, juste, excusez-moi de vous
interrompre. Oui, je vous en prie, oui, allez-y.
Mais pour ajouter au propos de votre invité, qui a tout à fait raison, ce que a réussi à faire le secrétaire général du Hezbollah à travers ce discours, c'est de transformer la question de l'exploration et de l'exploitation pétrolière, et là je rejoins ce que votre invité a dit, à un enjeu national. C'est-à-dire que la légitimité de protéger ses ressources nationales, alors que le pays souffre d'une crise économique très importante, est beaucoup plus importante que celle de la légitimité de protéger les frontières entre la Palestine occupée et entre le Liban. Dans cette question, celle de la légitimité des frontières, le Liban est divisé horizontalement et verticalement. Il y a certains qui considèrent peut-être que l'ennemi israélien n'est pas un ennemi. Bon, mais quand il s'agit des ressources pétrolières et que le Liban est en train et que les Libanais souffrent de tous les maux, oui, alors là, la question devient beaucoup plus légitime. Voilà.
Oui.
Exactement.
Voilà. Monsieur Amrouni, poursuivez, je vous prie.
C'est-à-dire dans la lecture politique, dans le discours politique que mène Saïd Hassan Nasrallah, c'est un discours sur ce point-là, c'est-à-dire sur le point de la richesse gazière et pétrolière libanaise. Sur ce point-là, Saïd Hassan Nasrallah, il essaie de parler au nom de tous les Libanais, y compris ceux qui sont en opposition sur la doctrine de Hezbollah. Donc c'est un changement important. Deuxièmement, Saïd Hassan Nasrallah, il se met dans le conflit global entre
la Russie, la Chine d'une part, et les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël de l'autre côté. Et donc, il rentre avec l'affaire de Karish en plein fouet, si vous voulez, en plein dans le temps et l'espace, pour tirer de l'intérêt pour le peuple libanais, mais aussi pour le peuple palestinien. Car tout ce qui affaiblit l'armée israélienne et l'économie israélienne, il encourage la résistance palestinienne. Donc, l'importance de cette crise pétrolière, gazière, Seyyed Hassan Nasrallah, il essaie de mettre la force importante de la résistance de Hezbollah en faveur des Libanais, mais aussi en faveur des Égyptiens. Car la guerre gazière, c'est une guerre très, très, très importante. Elle est fondamentale aujourd'hui. Et grâce à la stratégie de Hezbollah et grâce à l'intelligence de Seyyed Hassan Nasrallah, si vous avez remarqué dans son entretien, Seyyed Hassan Nasrallah, c'est un homme spirituel, c'est un homme de culture, c'est un homme politique, mais aussi c'est un homme stratégique militaire. Lorsqu'il dit « j'ai discuté avec les frères », on a dit ceci, on a fait cela, on a envoyé tel drone, on a choisi de faire telle chose. Donc, c'est une personnalité complète. Et cette personnalité complète, il faut qu'elle soit, c'est-à-dire dans son importance, au-delà du peuple libanais, c'est une personnalité du monde arabe. Et il mène une guerre face à Israël, mais aujourd'hui, il mène la guerre face aux États-Unis. C'est-à-dire, le Hezbollah, aujourd'hui, il est face à l'Empire américain, pas simplement à l'entité sioniste.
Emadeddine Hamrouni, tout de même, il faut penser que... Est-ce que, bon, c'est vrai que l'avancée militaire du Hezbollah est considérable à présent, mais dans l'avenir proche, au moment où nous parlons, est-ce que le Hezbollah va mettre à jour les menaces, donc va vraiment attaquer ces sites gaziers de offshore, de Karish en Méditerranée?
Si on revient à l'entretien, Seyyed Hassan Nasrallah, il est tout prêt. C'est-à-dire, la résistance libanaise, elle est prête à 100%, y compris le plan des cibles. Tout est prêt. Tout dépend de la décision israélienne. En fait, c'est la première fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois de l'histoire de l'entité israélienne, l'entité sioniste, qu'elle est menacée directement par une force arabe musulmane. C'est la première fois, en direct, c'est-à-dire à Seyyed Hassan Nasrallah, en direct, il leur dit, voilà, nous sommes prêts, nous avons mis le plan, nous avons les moyens technologiques, techniques, à vous de décider, ou bien vous nous laissez exploiter nos gisements gaziers et pétrolières, et on va vous laisser aussi, vous avez la possibilité d'exploiter ce que vous voulez, mais si vous commencez à exploiter avant que nous avons l'autorisation d'exploiter, hélas, personne ne va exploiter le gaz et le pétrole de cette région. Donc c'est un discours clair, précis et définitif. Le Hezbollah, la résistance libanaise, elle est prête à enclencher le premier attaque si Israël et les États-Unis décide de commencer l'exploitation avant que les Libanais aient le droit d'exploiter leur gisement.
Et Kader Obola, est-ce que vous croyez qu'Israël va venir à la raison et va prendre très sérieusement ces menaces, ou bien le Hezbollah va passer à l'acte?
Disons qu'il y a des indices qu'ils prennent au sérieux, puisque le dernier discours, pas discours, mais les derniers propos du Premier ministre israélien, il a presque supplié le médiateur sioniste, Amos Hochstein, parce que c'est un sioniste et qui servait dans l'armée de l'occupation israélienne en Cisjordanie. Donc, bref. Il a supplié que, justement, en disant que nous sommes prêts à nous plier à toutes les conditions, mais il faut signer absolument un accord concernant la démarcation des frontières maritimes. Donc, il y a des indices. Mais bon, l'histoire même de l'entité sioniste n'a jamais prouvé que c'était en fait une entité qui a une certaine raison et qui et parfois elle s'est souvent laissée entraîner dans des aventures qui se sont en fait retournées contre elle. Mais en fait, il y a une question à laquelle j'aimerais souligner pour conclure, c'est que est-ce que Saïd Hassan Nasrallah, oui, ira exécuter sa menace. Hier, au cours d'un entretien sur une chaîne satellitaire libanaise, justement, cette question a été posée. Et un certain correspondant a répondu que les gens, la compagnie qui est censée explorer le gaz et le pétrole dans le champ gazier de Karish n'a jamais cessé de fonctionner. Et ça, le Hezbollah est au courant. Et il a des images. Alors, pourquoi n'a-t-il pas attaqué? Et bien, tout simplement, dans la logique de la résistance islamique, il s'agit d'une résistance. Donc, jamais elle ira attaquer. Elle attend que, justement, le médiateur vienne au Liban, écoute les propos de la partie libanaise. Et ensuite, si jamais l'entité sioniste persiste et s'entête à ne pas justement laisser les compagnies derrière les États-Unis, à ne pas laisser le Liban explorer son pétrole et son gaz, alors oui, là, Hassan Nasrallah a bien dit dans son dernier discours, voire dans son interview, que sans accord avec le Liban, nous allons vers la confrontation. C'est très clair.
Oui. Ghada Obola, géopolitologue depuis Beyrouth, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Et un grand merci. Merci encore. Et un merci à M. Emadeddine Hamrouni, expert des questions politiques, qui est avec nous depuis Paris. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Ahmad Chamblou, au passage du vent. Le monde né des premières pierres et l'homme des premières douleurs. Il y avait en moi un prisonnier rebelle qui ne pouvait s'accommoder de ses chaînes. Je suis né de ton premier regard. L'homme dont la jeune pousse des mains évoquait l'amour de Dieu. L'homme dont la hauteur de révolte éclipse celle de l'enfer. L'homme qui mourait d'un seul vie, nom de la plaie de 100 poignards, et dont la mort donnait naissance aux 1000 princes. Une grande citadelle dont la clé était le simple mot amour. C'est ainsi qu'on peut décrire Chamblou, l'un des plus grands poètes, après Nima, selon de nombreux critiques, de la poésie moderne persane. En effet, il concilia avec dextérité le souffle épique du poème avec le lyrisme pour donner le jour au plus beau vers des années 70-90. Époque où la poésie contemporaine persane touchait à son apogée. Né en 1925 à Téhéran et mort en 2000, Chamblou eut la chance d'être un témoin privilégié des grands bouleversements sociopolitiques de l'Iran. Loin d'altérer la qualité poétique de ses textes, ces événements marquèrent le poète pour le transformer en rebelle qui ne cède jamais à l'oppression, à l'obscur. Fidèle aux idéaux de Nima, il met l'accent depuis l'ère frais sur le devoir social du poète qui se doit de changer le mot en cri. Au début, l'impact de grands poètes tels que Gracia Lorca ou Éluard sur la vision de Chamblou paraît évident. Sa poésie se rapproche davantage de la vie et de la condition moderne que les textes de Nima, ce qui laisse d'ailleurs pas intact le langage de l'auteur. Il accorde encore plus de place au mot du langage populaire. Et que dire de l'influence des existentialistes sur l'œuvre du poète qui, vu l'atmosphère critique de l'époque, embrassa également la conception existentialiste du monde. au fond du ciel vide, se trouvent les décombres d'un mur, et ton cri errant n'aura point d'écho pour te revenir. C'est la voix qu'on entend dans le jardin du miroir, le recueil qui nous confronte à la maturité considérable du poète, tant du point de vue du langage que du regard. Le pessimisme du poète envers l'univers y atteint son plus haut degré. Il ne se languit pourtant pas dans ce monde, trouvant refuge dans l'amour. Dans les recueils suivants, Instant et toujours, Aïda dans le miroir, etc., Chamlou se met à chanter autrement, au passage de la brise, de la pluie et de l'ombre. Il cherche en effet à faire reculer l'absurdité du monde, à nier la noirceur. Non, je n'ai jamais cru la nuit, car, au fond de son vestibule, j'espère trouver toujours. Cependant, cette image noire du monde entrelacée avec l'amour ne quittera jamais les textes du poète. Pour ce qui concerne la forme, elle va dans le sens de la poésie nimaïenne, plus loin dans l'abandon des règles classiques, notamment la rime. Chamlou s'est beaucoup inspiré de la prose du IVe et du Ve siècle de l'Égypte. Celle-ci se distingue et par sa profondeur et par une musicalité interne qui lui donne à la fois de l'harmonie et du sens. Ainsi, la poésie de Chamlou s'approche de la prose tout en conservant cette harmonie qui fait la force du texte poétique. Le texte qui se voulait dans l'esprit de Chamlou, au lieu du respect de l'homme, qui chantait l'égalité, l'amitié et la fraternité, les considérant comme des vérités qui régneront un jour sur le monde. Un jour, nous retrouverons nos pigeons, et l'amitié resserra la main à la beauté. Le jour où le chant le plus petit sera le baiser, et chaque homme, pour l'autre, sera un frère. Le jour où l'on ne fermera plus la porte à clé, et la serrure ne sera qu'un mythe. Le cœur suffira alors pour la vie. Le jour où chaque mot n'aura d'autre sens qu'aimer, et tu ne chercheras plus de paroles pour dire ton dernier mot. Le jour où la musique de chaque lettre sera la vie, et je ne souffrirai plus en quête de la rime pour dire le dernier poème. Le jour où chaque lèvre sera un chant, pour que le plus petit chant soit un baiser. Le jour où tu viendras pour toujours, et l'amitié ne fera qu'un avec la beauté. Le jour où nous parsèmerons des grains pour nos pigeons. Et j'attends ce jour, même si ce jour-là, je ne serai plus. Élégie, te cherchant, je pleure sur le seuil du mont, sur le seuil de l'herbe et de la mer. Te cherchant, je pleure au passage des vents, au carrefour des saisons, au vieux cadre brisé d'une fenêtre, encadrant le ciel couvert. Dans l'attente de ton image, jusqu'à quand tourner les pages de ce cahier vide? Accepter le flux de l'air et l'amour, cette sœur de la mort, l'éternité te parla de son mystère, et tu devins un trésor, précieux et désiré. De ces trésors qui rendirent agréable la possession de la terre et des amis. Ton nom est l'aurore qui passe sur le front du ciel. Béni soit ton nom. Et nous revenons sur la nuit et le jour. Nous revenons sur le toujours. Nous aussi un jour, nous aussi un jour, il y a un instant, un an, un siècle, un millénaire, nous nous tenions debout juste là, sur cette planète, sur cette terre. Peu de temps nous avions, c'était pareil. Vêtus de nuit soyeuse, du coton du soleil, sur le vaste divan de la lune, nous étions, sous les cordes de la pluie, dans la cabine de la joie, entourés par nos chagrins. Seul avec moi-même j'étais, seul avec les autres, unique dans l'amour, unique dans le chant, débordé par la vie, débordé par la mort. Nous aussi nous sommes passés, comme toi, sur cette planète, sur la Terre, à court intervalle de quelques années, par l'endroit même où tu te tiens debout maintenant, modeste ou médiocre, souriant ou morose, léger ou lourd, libre ou entravé. Nous aussi un jour. Nous aussi un jour. Oui, un jour. Oui, nous aussi un jour. C'est moi, oui, moi qui pleure. En cet instant morose, où les ombres s'allongent et la nuit vient rapide envahir la vallée, c'est moi, oui, moi qui pleure. Sur cette joue amère de naître dans ta jupe, après une douleur de 40 ans d'attente, jusqu'à cette pénombre irradiant le feu, dans ta jupe qui est refuge, tendresse, pardon, alors que le soleil répand l'éternité pour éteindre le jour et qui n'en finit pas. Dès lors, un paysage voué à la mémoire, la passion, la détresse. Si seulement ta main n'était pas la tendresse, le refuge, le pardon, tout ce qui est triomphe sur la convoitise, tout ce qui est l'inverse des âmes clairvoyantes, car il y a dans cette cage un animal sauvage, né de la bonté de tes mains, et qui dans la lenteur de ce pèlerin noir hurle comme une bête furieuse.